le studio Kalangou, il vient d'être 17h. Bienvenue au journal en français dans une présentation de Rafika Taher. À la une ce vendredi 6 mai 2022, le nouveau ministre de la Communication a rencontré ce matin à Niamey les promoteurs des médias privés du Niger. À suivre dans ce journal le porte-parole des promoteurs. Les propriétaires des champs de Sakwara expropriés pour la construction de l'aéroport de Tillabéri ont organisé hier un sit-in au gouvernorat. Ils réclament leur dédommagement. La partie magazine de cette édition parlera de la lente disparition de la langue Tianga à Gaya. Hier jeudi 5 mai, le Conseil des ministres a annoncé le projet de décret portant institutionnalisation d'un diplôme de brevet d'études techniques pour sanctionner les 4 ans de formation des élèves des collèges de l'enseignement technique. Nous avons rencontré l'inspecteur régional de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour expliquer ce diplôme. Docteur Habou Abdoubatouré, inspecteur régional ETFP au micro de Ali Tajissir Ahmed.
Auparavant, les élèves qui sont dans le collège des maths techniques font 4 ans d'études, mais ils sortent avec un certificat d'aptitude professionnelle, CAP, qui n'est pas réellement équivalent au diplôme qu'ils devaient avoir. C'est pourquoi l'État a corrigé cette injustice en rendant officiel donc le brevet BUT. Pour le permettre, une fois qu'ils ont fait 4 ans, qu'ils sortent avec un brevet d'études techniques qui permet de consacrer la formation qui se fait dans tout le collège des maths techniques pour une durée de 4 ans. Les élèves qui quittent le CM2 viennent dans le collège des maths techniques pour faire la 6e, 5e, 4e, 3e. Et elle se présente aux examens de fin d'année, aux examens d'État. Examen à partir duquel, s'il présente des compétences avérées, il sort avec le brevet d'études techniques, qui est l'équivalent du brevet d'études du premier cycle BEPC. Les élèves candidats ayant obtenu leur diplôme, le BET, avec des moyens bien déterminés, il a des critères qui leur permettent de continuer au niveau du centre de formation professionnelle technique, au niveau du lycée technique, au niveau du lycée professionnel ou au niveau du lycée d'enseignement professionnel.
Rencontre de prise de contact ce matin à Niamey entre le nouveau ministre de la Communication et les responsables des organes de la presse privée du Niger. À l'issue des échanges, le ministre Mahamadou Lawali Dandano a expliqué son engagement à œuvrer pour trouver des solutions aux problèmes des médias privés. Lamine Souleymane, le chargé des programmes du réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger, se réjouit de cette initiative du ministre de la Communication. Il est au micro de Assoumane Achina.
Le ministre a fait montre d'un engagement sans faille pour promouvoir les entreprises de la presse, l'indépendance des médias privés, puis à les accompagner, à faire œuvre utile, assumer leurs responsabilités. Nous sommes disposés à garder le contact avec le nouveau ministre de la Communication parce que le dialogue entre l'exécutif et les médias privés a manqué ces 10 dernières années au point où les médias privés ont le sentiment que l'État ne compte plus avec eux et de l'autre côté l'exécutif aussi a le sentiment que les médias privés sont dans l'adversité permanente. Donc c'est une très bonne chose déjà. Et ensemble, comme il l'a dit, on va trouver des solutions ou des débuts de solutions à tous les problèmes et les difficultés dans lesquelles les médias privés vivent au quotidien. Voilà ce que je peux dire en un mot.
Le réseau des journalistes pour les droits de l'homme a organisé ce matin à Niamey un panel avec pour thème le journalisme sous l'emprise du numérique. Cette rencontre vise à sensibiliser les journalistes et les étudiants de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication sur l'emprise du numérique sur le journalisme. Ibrahim Tikiré, président du RJDH, au micro du studio Kalangou.
C'est vraiment amener les journalistes, mais aussi les étudiants à comprendre un peu l'importance du numérique dans le cadre de notre métier. Vous n'êtes pas sans savoir que l'évolution des nouvelles technologies de l'information sont en train de déformer ou bien d'amener les journalistes à commettre certaines erreurs. Malheureusement, on est en train de constater avec l'ère numérique, il y a beaucoup de choses qui sont en train de passer inaperçues pour les journalistes et on se laisse un peu entraîner par la facilité. Après, ce sont les conséquences parfois qu'on ne mesure pas. Et nous comptons, nous, au niveau du RJDH, avec l'accompagnement de certains partenaires, instaurer une culture des droits humains au niveau de certaines rédactions qui sont en train de faire de leur mieux dans le cadre de la promotion et la protection des droits humains. Et nous comptons également, au sein de l'IFTIC, initier des sessions pour amener des éminents conférenciers qui vont venir, ne serait-ce que mensuellement, débattre avec les étudiants sur les questions liées aux droits humains. Pour cette phase, on s'est intéressé à l'IFTIC, mais on peut l'étendre avec un peu de chance.
Les propriétaires et occupants des champs de trois villages de la commune rurale de Sakwara, dont leurs espaces ont été utilisés pour construire l'aéroport de Tillabéri, ont organisé hier un sit-in au gouvernorat de Tillabéri. Ils exigent des autorités le dédommagement, a déclaré Abdoulaye Moussa, secrétaire général du comité des propriétaires et occupants des champs de Sakwara. Il est joint au téléphone par Adama Dawaki.
Il y a environ 400 à 500 propriétaires terriens de Sakwara, Tilkaina et Tillabéri dont les champs ont été expropriés pour construire un aéroport dans le cadre de la fête tournée du 18 décembre Tillabéri-Tchendalou. Pour les dédommager, le mètre carré a été estimé à 750 francs CFA. Ainsi, nous sommes quelques 124 propriétaires de champs qui, 4 ans durant, sont dans des démarches, des rencontres interminables avec les autorités. De la préfecture au gouvernorat, en passant par le chef de canton et le maire de Sakwara pour réclamer nos dûs sans rien recevoir. C'est pourquoi hier jeudi, les populations de ces trois villes ont manifesté leur mécontentement à travers un sitting dans la cour du gouvernorat pour redemander leurs droits auprès du premier responsable de la région. Le gouverneur nous a reçus et nous a assuré qu'avec un peu de patience, l'argent sortira incessamment.
Les festivités de la fête de la Concorde nationale célébrée chaque 24 avril ont été reportées cette fois-ci du 7 au 8 mai à Tchinta. Ce report est lié au mois de Ramadan observé au Niger en avril. Les autorités estiment que ce report permettra à tous les acteurs de participer et d'échanger sur la paix et la cohésion sociale. Amanaya Irishid, secrétaire général du cadre paix et développement de la région de Tawa, joint au téléphone par Alamine Ouachar.
Les raisons sont très simples. Dans un premier temps, vous savez que le 24 de cette année correspond un peu au mois de Ramadan. Et même au mois de Ramadan, c'est vers la fin du mois de Ramadan. Les gens sont très fatigués, donc les autorités au plus haut niveau ont compris qu'on ne peut pas organiser les 24 comme les autorités le souhaitent, mais aussi l'ensemble des acteurs concernés. C'est ça qui explique le report de cette date. C'est pour permettre en tout cas d'organiser un grand événement où on aura des propositions pour mieux prévenir surtout la situation sécuritaire au nord de la région de Tawa. Au niveau du cadre de la paix et du développement, nous avons déjà contribué par rapport à trois points. C'est-à-dire qu'on a déjà mené nos réflexions par rapport d'abord aux causes et aux propositions de solutions par rapport à l'insécurité, par rapport à la paix, mais aussi par rapport au développement.
Ouvrons une page sport dans cette édition. Le Niger va accueillir deux grands événements sportifs de la Confédération africaine de handball. La Super League de handball le 8 mai et le 38e championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe de handball du 10 au 19 mai à Niamey avec la participation de 9 pays. La présidente de la FENI Handball, Bibata Moussa Hassan, nous parle de l'organisation de ces deux tournois et la participation du Niger. Elle est au micro de Maman Ada.
Le Niger va effectivement accueillir deux compétitions majeures de la Confédération africaine de handball, à savoir la Super Coupe le 8 mai et les vainqueurs de coupe du 9 au 19 mai. En termes d'organisation, je pense que le Niger est prêt à accueillir ses invités, ses hôtes, ce qui est un honneur pour nous. Nous attendons quand même 12 clubs de 10 pays en hommes et 6 clubs en dames. L'état d'esprit de notre équipe est vraiment au top, au haut, et car elle s'est préparée en conséquence pour cette rencontre et nous attendons vraiment des résultats pendant cette compétition.
Demain samedi 7 mai débute à Niamey le tournoi qualificatif de la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 20 ans, CAN U20 Égypte 2023 de l'UFOA Zone B. Le MENA U20 du Niger affronte l'équipe de la Côte d'Ivoire à 17h au stade Saint-Nicoutier de Niamey. Après la publication de la liste des 25 joueurs retenus, l'entraîneur du MENA, Abdrahman Issa Maïga, compte sur la qualité de ses poulains pour la qualification. Il est au micro de Soumana Amadou.
À partir du mois de juin, il y a eu un stage ici, la deuxième phase au niveau du centre technique. On a eu à jouer des matchs amicaux aussi contre des équipes de Niamey et deux matchs contre le Nigeria. qui nous a permis de tirer beaucoup d'enseignements, qui nous permet aussi de faire les dernières retouches avant le match officiel du 7. La première phase, nos adversaires, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Bénin, c'est le Togo. C'est des équipes qu'on a eu à affronter au dernier tournoi à Cotonou. Je ne dirais pas qu'on connaît parce qu'il se pourrait qu'il y ait des changements, mais nous avons quelques renseignements sur ces équipes. On va compter sur nos qualités et on va tout faire pour bien négocier ces matchs. On n'a pas de complexe, la réalité, ça va être le terrain. On a beaucoup de respect pour ces équipes, mais comme je l'ai dit, on va se battre, on va se donner les moyens pour nous qualifier.
Pour booster la fréquentation du musée et générer des ressources financières, le musée national Boubou Hamad de Niamey organise des activités attractives et récréatives. Selon le directeur général, par manque de moyens, ces activités sont organisées uniquement lors des fêtes religieuses, à l'occasion de la journée mondiale du musée ou des vacances. Hala Doumamman est au micro de Rukayatou Abdraman.
Chaque activité a un coût. On ne peut pas entreprendre un truc, on ne peut pas toujours dépenser et gagner ce qu'on n'a pas dépensé. Parce que le musée aujourd'hui, comme les institutions, sont appelées à être intégrées dans le développement. Une institution, qu'elle soit culturelle ou pas, si elle ne génère pas de ressources, elle va disparaître. Parce que le moyen que l'État met, ça ne permet pas au musée de réaliser tout son programme. Voilà pourquoi on ne peut pas le faire tous les jours. Parce que le peuple d'abord ne vient pas. On peut dépenser jusqu'à 1 million pour les préparatifs. Ça dit payer les gens qui vont venir, payer la sono, tout ça la voie. Donc on ne peut pas le faire tous les jours. On le fait seulement à des occasions spontanées, telles que le jour de fête ou la journée internationale des musées qu'on va célébrer cette année, le 18 mai. Ou par exemple l'édition du programme spécial vacances. Nous nous contentons d'un programme au niveau du plein air. Nous organisons des jeux pour enfants, les jeux de roues, les jeux de course, la visite des animaux pour en fait rendre agréable le séjour des enfants. Nous, c'est une occasion pour nous en fait, de booster la fréquentation du public.
Selon l'UNESCO, en moyenne, une langue disparaît chaque 2 semaines dans le monde. Un phénomène qui n'épargne pas le Niger, particulièrement le département du Gaya, où la langue Tianga est en danger. Fadel Alou s'est penché sur le sujet, suivant son reportage dans la partie magazine.
Cette phrase est en langue Tianga, la langue de l'ethnie Tianga qui a fondé la ville de Gaya. Mais aujourd'hui, très peu de Tianga sont capables de parler leur langue. Le témoignage de Yakuba Foma, chef de village de Tunuga.
Parmi les ethnies qui vivent à Tunuga, ce sont les Tianga qui sont arrivés en premier. Bon, nous, depuis que nous avons trouvé les anciens, c'est la langue Haoussa qui est parlée et nous avons opté pour ce langage. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir 10 personnes dans cette ville qui peuvent vous parler la langue Tianga.
Plusieurs raisons expliquent cet état de fait, selon El Hadj Harouna Anti, animateur culturel à Gaya. Les Tianga sont devenus minoritaires face à plusieurs autres langues à Gaya.
Il y avait des Sorai, des Arma, des Haoussa qui sont venus. Chacun a sa langue. Donc ce sont des langues qui se sont rencontrées ici à Gaya. C'est vrai, c'est les Tianga qui ont fondé Gaya. Mais leur nombre est limité par rapport au nombre des Sorai qui parlent le Arma. C'est ce qui a amené la disparition de la langue Tianga. Il est difficile de trouver une ville dans laquelle il y a 4 personnes qui peuvent te parler la langue Tianga.
Parmi les rares personnes qui parlent la langue Tianga, Adamu Chicha Bengu, il était contraint d'aller au Nigeria chez ses grands-parents pour apprendre la langue après avoir été mis au défi par ses parents amis.
En ce temps, je me suis lancé un défi. J'ai quitté chez moi pour apprendre cette langue. J'ai duré dans la localité de Kaseki. Ensuite, je me suis installé à Bani. J'ai appris la langue. Après, je suis retourné à la maison. C'était lors d'une rencontre à Bana que j'ai commencé à la parler en public. Mais moi, je ne vais pas apprendre cette langue à mes enfants.
Cette langue est vouée peut-être à disparaître. Une perte culturelle, identitaire et d'une partie de l'histoire locale, estime El Hadj Harouna Anti, animateur culturel à Gaya.
On ne peut pas comprendre comment l'homme peut se déraciner jusqu'à ne pas pouvoir parler la langue de tes origines. C'est une disparition culturelle. Il n'y en a pas aujourd'hui un Tianga de 70 ans à Gaya qui peut te parler Tianga. C'est-à-dire même si vous avez besoin de régénérer ça, ce n'est pas possible.
L'UNESCO considère que les langues appartiennent au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Ces langues qui disparaissent sont souvent des langues qui contiennent des phénomènes linguistiques rares, voire unique, et si elles n'ont pas été répertoriées, elles sont perdues à jamais.
C'est C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, Tarnan Foudey Ahmed vous présentera le journal en tamashek. Et à 18h15, vous suivrez le forum de la presse avec Michel Dedji et ses invités.